À l'instant, c'était Hector Zazou sur les ondes de Radio Pays d'Hérault. Merci de nous écouter, merci de votre fidélité. Il est 10h, lundi 21 mars. Voici maintenant l'émission Album d'Histoire. Elle est présentée par Olivier Notal.
Today, in the world of freedom, the proudest boast is Ich bin ein Berliner.
That's one small step for man, one giant leap for mankind.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Un petit pas pour un homme, un bond de géant pour l'humanité. Nous sommes le 21 juillet 1969, il est 2h56 GMT.
Now here's a message from the Foreign Office for all British nationals in and around Kuwait. Do not go to Kuwait under any circumstances. All foreign nationals in Kuwait have been advised to stay at home or in their hotels. That's the end of that message from the Foreign Office.
D'abord, on pouvait pas le croire. Moi, je regardais CNN et j'ai vu le deuxième avion qui est arrivé. On nous demande d'évacuer le building immédiatement parce qu'ils craignent une attaque sur les Nations Unies elles-mêmes. Il y a tellement, vous pouvez même pas imaginer la panique. Il a vu, il comprenait pas ce qui se passait, l'avion percutait la tour.
Une image, vous le disiez au début de ce journal, hallucinante. On n'aurait jamais pensé voir ça un jour.
Deux avions et l'Amérique.
May God bless the victims, their families, and America. Thank you very much.
Ça y est, le grand incendie, y'a le feu partout, emergency, Babylon, Paris s'écroule, New York City, Iroquois qui déboule maintenant.
Histoire d'album.
Allez,
non. Album d'histoire.
Pour le show, hommage à l'art pompier.
Une émission d'Olivier Notal.
Entend les sirènes, elles sortent la grande échelle. Vas-y.
Eh ben, un nouvel album d'histoire. Cet album d'histoire va nous emmener dans les années 70, au début des années 70, exactement l'année 1972. Pour illustrer cette partie de notre histoire à tous, j'ai choisi un grand artiste canadien, un artiste canadien qui a vraiment explosé dans cette année 1972 au niveau de la notoriété. Il s'appelle Neil Young. C'est un chanteur de folk, on peut dire au départ, qui va après explorer beaucoup de domaines musicaux. Neil Young, en fait Neil Percival Young, est né en 1945 à Toronto, donc au Canada. C'est un chanteur, guitariste de folk au départ, comme je vous le disais. Et puis, il va vite aller vers là où ça brillait à cette époque, c'est-à-dire la Californie. C'est pas très, très, très loin. Il descend en Californie. Il va faire des rencontres très intéressantes qui vont le propulser sur le devant de la scène. On se souviendra, bien entendu, de ce qui va lancer la carrière de ces gens qui se sont regroupés selon le nom de Crosby, Stills, Nash et Young. Et ils vont passer au festival de Woodstock, ce qui va lancer leur notoriété mondiale. Festival de Woodstock, ces jeunes gens sont tout surpris de se retrouver devant une foule si immense. Neil Young va très vite quitter ce groupe pour faire une carrière solo et avec son propre groupe qui s'appelle Crazy Horse. Alors on va écouter le premier extrait de l'album Harvest qui est paru donc en 1972. A brand new day. Alors, cette voix est incomparable et à nulle autre pareille, c'est celle de Neil Young. Nous sommes en 1972, l'album c'est Harvest. Harvest, ça va être un succès mondial. C'est vraiment le plus grand succès que connaîtra jamais Neil Young. Cet album en 1972 deviendra numéro 1 aux États-Unis d'Amérique, numéro 1 au Royaume-Uni. Et quand en France, il sera parmi les premiers des charts. Et Neil Young recevra pour cet album le prix, le célèbre prix de l'Académie Charles Cros, qui récompense les meilleurs albums de l'année, enfin le meilleur album de l'année. Alors 1972, ben, il s'en est passé des choses, bien entendu. Et on va commencer à survoler cette année avec quelques faits marquants. Au mois de juin de 1972, la première conférence de l'ONU sur l'environnement s'ouvre à Stockholm. On peut dire que c'est le début de la prise de conscience qui va mener à une relation différente avec notre environnement. L'ONU se rend compte que bon, la planète n'est pas inépuisable et il va falloir réagir. Nous sommes donc en 1972. En 1972, notre président de la République s'appelle Georges Pompidou. Il est président parce que le général de Gaulle est mort il n'y a pas tellement longtemps, c'était en 1970, et lui, il avait été élu en 1969, Pompidou. Simplement, il est déjà malade, très malade, et il ne va pas durer très longtemps, ce brave Georges Pompidou, puisque dès 1974, il va être remplacé après sa mort, ce qui est rare, dans l'exercice de ses fonctions, il va mourir. Il sera remplacé par Valéry Giscard d'Estaing, un peu à la surprise générale. On pensait plutôt que ce serait Jacques Chaban-Delmas qui serait président de la République à cette époque-là. Valéry Giscard d'Estaing, lui, a battu un candidat malheureux qui sera courageux parce qu'il va revenir. Hein. Il s'appelait François Mitterrand. Il a été tout juste battu en 1974. Alors, il reviendra, comme vous le savez, après, en 81, en 88. Enfin, bref, Tonton n'était pas encore président à cette époque-là, puisque c'était Pompidou. Dans l'Afrique, toujours aussi étrange au niveau politique, un certain Jean-Bébel Bokassa se proclame, s'il vous plaît, président à vie de la République centrafricaine. Ce personnage va venir se mêler un peu de nos affaires intérieures, puisque après, quand Giscard d'Estaing sera président de la République, il y aura le fameux épisode des diamants qu'il offrait un peu de façon sympathique à ses visiteurs. Et Giscard d'Estaing avait oublié de nous dire qu'il avait reçu des diamants. Alors que vous savez que nous, nos présidents, ils sont obligés de nous dire qu'est-ce qu'ils reçoivent comme cadeau. Sans ça, c'est pas bien du tout de pas le dire. Bon, ben, ça sera une sorte de Watergate à la française, parce que le Watergate, c'est aussi 1972, mais nous en reparlerons. Vous entendez toujours cette voix tout à fait particulière de Neil Young. Pour cet album Harvest en 1972, il a été dans des célèbres studios de Nashville, Tennessee. Il s'est entouré donc des plus grands musiciens de studios de cette époque de la country music américaine. En 1972, donc, au sud de l'Afrique, on est encore en pleine apartheid. L'Afrique du Sud est donc divisée en plusieurs catégories sociales. Et puis autour d'elle aussi, il y a la Rhodésie, et c'est pareil. Mais ça va être le début de l'insurrection. Au mois de décembre, en fait, on va appeler ça la guerre du Bush. Alors pas George Bush, bien sûr. Hein. Le Bush, c'est un petit peu, comme on dit, la savane, hein, si vous voulez. C'est la guerre civile qui va éclater donc, entre blancs et noirs. Et ça va durer quand même, la plaisanterie, 8 années. Pendant 8 années qui feront à peu près de 20 000 à 30 000 morts, on ne sait pas exactement. Ce sont donc les Noirs qui vont attaquer les fermes qui sont tenues par les Blancs. Et c'est le début de la grande révolte dans cette partie de l'Afrique qui débouchera bien plus tard à la libération de Nelson Mandela. L'Afrique connaît une sécheresse terrible du côté du Sahel. Le Sahel, c'est le Mali, la Mauritanie, le Sénégal, la Haute-Volta, le Niger et le Tchad, en gros. Et cette sécheresse va conduire la mort de je ne sais pas combien d'Africains. Mais vous savez, avec les Africains, vous avez l'habitude, on ne les compte pas, les morts. On dit il y a eu des morts, c'est tout. Nous passons maintenant un peu donc des Amériques, on va changer de continent. Alors en ces époques-là, on était encore sous les dictatures militaires, hein, vous savez. Et puis il y a eu quand même un bouleversement terrible, c'était au Chili. Au Chili, il y a un nouveau président de la République qui a été élu et qui s'appelle Salvador Allende. Et au mois de juin de cette année-là, il va former donc le premier gouvernement d'union populaire au Chili. Alors, c'est un immense espoir qui est né avec Allende, puisque on pensait tous que l'Amérique du Sud, ça resterait l'Amérique dirigée par la CIA, si je puis me permettre, et occupée par les dictateurs militaires, régime de terreur et régime donc à la botte des États-Unis d'Amérique, qui à ce moment-là, on les disait les impérialistes américains, puisqu'ils choisissaient les endroits du monde pour s'installer, contre l'impérialisme soviétique de l'autre côté, bien entendu. Au Chili, donc, que Salvador Allende va nous offrir un moment d'espoir. Mais bon, comme on connaît la fin de l'histoire, et ben c'est court, hein, puisque nous sommes en 72 et c'est en 73, le 11 septembre 1973, qu'il sera renversé, qu'il va mourir, assassiné, si on peut dire. Enfin, il s'est suicidé, paraît-il, je ne sais pas. Enfin bref, ça ne durera que très peu de temps et c'est bien la CIA qui organisera tout ça. On va écouter encore un extrait de cet album de 1972 et de notre, on peut dire presque le Bob Dylan canadien, si je peux me permettre, Neil Young. Et alors Neil Young nous parle de l'Alabama, c'est-à-dire des États du Sud des États-Unis, qui n'étaient pas si loin en fait au niveau apartheid que l'Afrique du Sud. Hein. C'était pas mal non plus dans le genre. Alors Neil Young nous emmène sur ces routes du Sud avec ces musiques qui viennent souvent des esclaves noirs qui avaient été importés, comme vous savez, depuis avec nos bateaux. Vous vous souvenez un petit peu, ils venaient d'Afrique, on les a emmenés. Ils étaient dans le champ de coton au début. Pendant très longtemps, ils étaient comme en Afrique du Sud. Hein. Il y avait des restaurants pour les Noirs, des restaurants pour les Blancs, des autobus pour les Blancs, des autobus quand il y en avait pour les Noirs. Neil Young, a donc avec cette chanson, nous rappelle bien des souvenirs. Alors, puisqu'on est aux États-Unis d'Amérique, eh ben on va parler du président de l'époque. Le président de l'époque, c'est Richard Nixon. Ça vous rappelle des choses, Richard Nixon, ou du moins si vous étiez trop jeune, vous avez vu ça dans les livres d'histoire. Alors Richard Nixon va entreprendre un voyage historique en Chine, où il va rencontrer Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, c'est donc le président chinois à l'époque. Enfin, c'était une rencontre vraiment tout à fait étonnante. C'est la première fois qu'un président des États-Unis rencontrait son homologue chinois. Dans un communiqué publié à Shanghai, les deux pays constatent qu'ils ont quand même des objectifs stratégiques communs face à l'Union soviétique, bien entendu. Ils avaient trouvé un terrain d'entente sur l'ennemi commun. Ensuite, il y a le fameux... On a joué au tennis de table. Vous savez, les Chinois sont les meilleurs joueurs du monde. Et avant, pour préparer le voyage de Richard Nixon, on avait envoyé l'équipe des États-Unis d'Amérique de tennis de table rencontrer son homologue chinois. Évidemment, ils avaient vraiment perdu. Là, les Chinois n'avaient pas pris beaucoup de risques. Ils n'avaient pas choisi le baseball, par exemple, comme sport, mais le tennis de table. Et là, ils ne risquaient pas de gagner. Mais enfin, c'était le début d'une relation qui va enfin s'ouvrir entre les deux géants, puisque nous sommes en 2011. Et quels sont les deux géants de la Terre? C'est toujours les États-Unis d'Amérique et la Chine. Quant à l'Union soviétique, elle a disparu dans l'histoire. En pleine campagne électorale, donc, nous sommes au mois de juin, pour la réélection de Richard Nixon, va éclater ce qu'on appellera le scandale du Watergate. La police surprend cinq hommes en train de poser des micros dans l'immeuble du Watergate à Washington, où siège le QG du Parti démocrate, c'est-à-dire les opposants à Richard Nixon. L'enquête va révéler que ces hommes ont agi pour le compte du comité pour la réélection du président républicain, ce qui va déclencher une crise politique majeure et qui va durer longtemps, jusqu'à ce que Richard Nixon démissionne. Parce que dans les États-Unis d'Amérique, vous savez, on ne plaisante pas trop avec ce genre de choses. En France, on s'en fiche un petit peu. Pour poser des micros, c'est pas bien grave. Nous allons revenir maintenant sur d'autres parties de la planète, puisqu'on était aux États-Unis. On va passer du côté du Proche-Orient. Alors, Proche-Orient, à chaque fois que je fais des albums d'histoire, qu'ils soient en 70, en 67, en 80, en 90, en 2005, j'ai l'impression de raconter toujours la même histoire. C'est vraiment, on dirait que l'histoire ne bouge pas. Alors bon, un petit peu peut-être, mais enfin, il y avait encore un sommet pour la paix. Alors ce sommet a eu lieu à Moscou. Bon, alors Henry Kissinger, qui est donc le secrétaire d'État américain, on peut dire les affaires étrangères, si vous voulez, de Richard Nixon, le ministre des Affaires étrangères de Richard Nixon, Henry Kissinger obtient des soviétiques l'idée d'un règlement global au Proche-Orient. Alors il devrait y avoir le retrait israélien des territoires occupés depuis 1967, nous sommes en 2011, ils ne sont toujours pas retirés des territoires, hein, je vous rappelle quand même. Hein. Mais enfin bon, en 1972, on leur demande, donc il faut que vous retirez des territoires occupés. Fin de l'état de belligérance, on va mettre en place une paix, tout le monde va se mettre autour du table, on va discuter, et tout ira très bien. Bon, alors, en Égypte, c'est Sadat qui est au pourvoir. Il se tourne vers les États-Unis, il en commence à en avoir un peu marre de ses amis de l'Union soviétique. Et d'ailleurs, en mois de juillet de cette année 1972, il va faire quelque chose de très très important, il renvoie les 20 000 conseillers militaires soviétiques de l'époque d'Égypte. Alors comme ça va être quand même un grand tournant. L'Égypte va se rapprocher des États-Unis d'Amérique au détriment de l'Union soviétique. C'est stratégiquement extrêmement important. Bon, au niveau toujours du Moyen-Orient, on parle déjà de pétrole, vous savez, hein, le pétrole c'est important, il va bientôt y avoir 1973, puisqu'on est en 1972. 1973, c'est la première vraiment gros crash au niveau pétrolier. Ça va nous coûter très cher dans l'augmentation pour la balance extérieure commerciale, etc. Et au mois d'octobre, la signature d'un accord entre les compagnies pétrolières qui sont occidentales, la plupart, hein, à cette époque-là, c'était pas Total, mais enfin bref, c'était pareil. Il y avait aussi Exxon Valdez et compagnie. Et bien, il y a un accord qui va être fait entre l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, Abu Dhabi, etc. Et prévoit que ces États vont rentrer dans le capital des sociétés concessionnaires. C'est une grande révolution, à hauteur d'un quart. C'est énorme. Ce qui va donner les fantastiques fortunes qui vont se faire au Moyen-Orient, dans ces pays du Golfe. Les pays du Golfe vont devenir très, très, très riches à partir de ces dates-là. Nous sommes donc en 1972. Écoutez, on va encore écouter notre ami Neil Young qui va nous chanter une chanson qui n'est pas très, très, très gaie et elle est relativement courte. On va l'entendre presque en entier. Thank you. Oui, Neil Young nous raconte le damage done, c'est-à-dire le dommage fait. Par quoi ? Ben, par la drogue, en fait. Hein, par la drogue et le needle, c'est l'aiguille, évidemment, que tous ces junkies se plantaient dans leurs veines en trouvant peut-être des paradis bien illusoires et surtout pour pas très longtemps. Combien de morts aussi dans cette terrible années 70 où les gens, ben, y trouvant la liberté, et ben, y trouvaient l'enfer aussi. Alors, en 1972, sur notre côté en an européen, il se passe deux événements, je dirais, tragiques et extrêmement marquants. Le 30 janvier de cette année-là, c'est ce qu'on appelle le Bloody Sunday. Hein, ça se passe donc au nord de l'Irlande. Il y a une fusillade déclenchée par l'armée britannique et l'enquête de la blanchira d'ailleurs cette année, mais enfin bref, il y avait une marche en faveur des droits civiques et à Londonderry, en Irlande du Nord, de nombreux morts. Ce Bloody Sunday va enclencher, bien entendu, comme souvent dans ces cas-là, ben, le retour de bâton. Le retour de bâton, c'est l'IRA, l'IRA, l'armée républicaine irlandaise provisoire, et ben, va commencer à dire ben, on va transporter maintenant sur le sol britannique notre conflit. Et ce sera toute une série d'attentats, notamment des attentats très meurtriers dans Londres dans les quelques années qui vont suivre. Alors moi, pour la petite histoire, comme la grande histoire des fois amène la petite histoire, dans la petite histoire, moi j'habitais à Londres dans ces années-là et c'était en effet terrible. Il y avait toujours la crainte de ces attentats. Il y avait on entendait des fois des déflagrations et c'était vraiment l'IRA qui attaquait, rentait le coup de bâton qu'on lui avait donné. En 1972, toujours dans notre continent européen, va se passer un fait marquant aussi qui, pendant quelques années, va nous marquer. C'est la prise d'otage des Jeux Olympiques de Munich. On est à Munich, c'est la fête. Vous savez, les Jeux Olympiques, c'est la fête. Hein, c'est l'amitié entre les peuples. Bon, c'est ça, en principe. Tout le monde se retrouve, même s'ils ne sont pas d'accord. L'Union soviétique à côté des Américains pour courir. D'ailleurs, à cette époque-là, le 100 mètres était gagné non pas pour la première fois par des Noirs américains, mais par un Blanc venu de Russie. C'était un moscovite, Valérie Borsov, qui gagna et le 100 mètres et le 200 mètres à la surprise générale devant donc la pléiade des ténors américains. Donc c'est le premier Blanc aussi à gagner une course de ce type dans les Jeux Olympiques. Bon, ça c'est l'histoire sportive. Mais hélas, à côté de l'histoire sportive, va se brancher une prise d'otage. Alors c'est un commando donc palestinien qui va prendre en otage les athlètes israéliens qui étaient là. Mais au 6 septembre de cette année 1972, il y aura 11 athlètes qui vont trouver la mort. Deux d'abord, puis 9 autres ensuite. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Ça, c'est une bonne question. Hein. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Est-ce qu'il fallait arrêter ces Jeux ? Le Comité international olympique décida alors de suspendre temporairement les Jeux, alors que des décisions de pourparlers furent entamées avec les autorités allemandes. Voilà. Dans la soirée, d'après le drame, se joue à l'aéroport de Munich où les terroristes devaient s'envoler pour le Caire avec deux otages suite à des pourparlers avec la police allemande. Et les 9 otages israéliens sont tués ainsi que 5 à 8 terroristes. La prise d'otages fera au total donc 18 morts. Après avoir renoncé à annuler les Jeux Olympiques, le CIO organisera dans le stade olympique de Munich une cérémonie funèbre à la mémoire des victimes et rassemblera 80 000 personnes. Bon, voilà, on a continué, the show must go on, comme on dit, on a continué le show malgré ce terrible, terrible épisode des Jeux Olympiques. Eh bien, on avance tout doucement vers la fin de cette mission, ça passe vite le temps. Regardez, 1972, c'est pas si lointain, si on commence à faire. Quand même. On va écouter un petit peu notre ami Neil Young dans une chanson qui s'appelle « Old Man ». Alors nous revenons en 72, alors j'ai vraiment pas dit tout, hein, loin de là. En 1972, c'est encore la guerre du Vietnam. Il y a les bombardements massifs de Hanoï par les B-52. Pour la première fois, quelques pilotes américains vont refuser de monter dans leurs avions pour aller bombarder la population civile vietnamienne. C'est un tournant de cette guerre, puisque très peu de temps après, tout va se terminer par ce que vous savez, la victoire des Vietnamiens contre la plus grande puissance militaire du monde. Chez nous, il y a deux choses qui m'ont retenu l'attention dans les, on peut dire un peu dans les faits divers, ou c'est en quelque sorte. Il y a l'exécution de Roger Bontemps et de Claude Buffet. C'est à cette époque-là, en France, on guillotinait les gens. Et là, ces deux-là, ils vont être guillotinés, malgré une défense remarquable de leur avocat de l'époque, un certain Robert Badinter. Robert Badinter, qui en 1981 sera celui qui portera devant l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort. Et puis à Bobigny, il y a un procès aussi qui est absolument irréaliste quand on réfléchit. Nous ne sommes pas très loin quand même, 1972. C'est le procès d'une jeune fille de 16 ans qui va être relaxée après avoir avorté, alors que ce qui était un délit, on n'avait pas le droit d'avorter, suite à un viol. Et en accord avec sa mère. C'est-à-dire que sa mère était d'accord. Elle était d'accord, c'était un viol. Et pourtant, elle était poursuivie parce qu'elle avait pratiqué un avortement qui était illégal. Alors là, la personne qui va la défendre va devenir très célèbre aussi. C'est Gisèle Halimi qui va soutenir la cause de ces femmes et se défendre bec et ongles jusqu'à que l'avortement soit reconnu grâce à une grande dame aussi qui s'appelle Simone Veil. On arrive tout doucement à la fin de cette émission. Alors, je voudrais simplement vous citer quelques films parce que c'est une année vraiment faste du cinéma mondial et français aussi. Alors, il y a eu en 1972, alors sans parler du James Bond de l'époque, parce qu'il y a toujours un James Bond, c'est Les Diamants sont éternels. Il y a Fellini qui sort, Fellini Roma. Il y a Il était une fois la Révolution de Sergio Leone. Il y a Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Tout ça la même année. Hein. Il y a Frenzy d'Alfred Hitchcock. Il y a Nous ne vieillirons pas ensemble de Maurice Pialat. Il y a Le charme discret de la bourgeoisie, extraordinaire film hallucinant et décalé de Louise Buñuel. Il y a Délivrance de John Borman. Il y a Le parrain de Francis Ford Coppola. Et Le dernier tango à Paris, qui fit scandale, de Bertolucci, avec les fameuses scènes qui entraînèrent le boycottage de ce film à travers la France encore bien puritaine. Il y a Cabaret, de Bob Fosse. Donc, vous voyez, c'est une année exceptionnelle au niveau du cinéma. Je vais vous laisser donc en compagnie de notre témoin de 1972 avec son album Harvest, Neil Young. Neil Young, alors il va nous interpréter sa dernière chanson qu'on va laisser en entier. C'est un tube qui de l'époque, ça s'appelle Heart of Gold et ça va faire le tour de la planète. Je vous laisse et à bientôt.
searching for a heart of gold, and I'm getting old. Keeps me searching for a heart of gold, and I'm getting old. Searching for a heart of gold. You keep me searching and I'm growing old. Keep me searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold.
Both wars, Kiewit, Romanus, Sum. Today, in the world of freedom, the proudest boast is Ich bin ein Berliner.
That's one small step for man, one giant leap for mankind.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Un petit pas pour un homme, un bond de géant pour l'humanité. Nous sommes le 21 juillet 1969, il est 2h56 GMT.
Now here's a message from the Foreign Office for all British nationals in and around Kuwait. Do not go to Kuwait under any circumstances. All foreign nationals in Kuwait have been advised to stay at home or in their hotels. That's the end of that message from the Foreign Office.
D'abord, on pouvait pas le croire. Moi, je regardais CNN et j'ai vu le deuxième avion qui est arrivé. On nous demande d'évacuer le building immédiatement parce qu'ils craignent une attaque sur les Nations Unies elles-mêmes. Il y a tellement, vous pouvez même pas imaginer la panique. Il a vu, il comprenait pas ce qui se passait, l'avion percutait la tour.
Une image, vous le disiez au début de ce journal, hallucinante. On n'aurait jamais pensé voir ça un jour.
Deux avions et l'Amérique.
May God bless the victims, their families, and America. Thank you very much.
Ça y est, le grand incendie, y'a le feu partout, emergency, Babylon. Paris s'écroule, New York City, Iroquois qui déboule maintenant.
Histoire d'album.
Allez,
non. Album d'histoire.
Dans le show, hommage à l'art pompier.
Une émission d'Olivier Notal.
Entend les sirènes, elles sortent la grande échelle. Vas-y.
Et si vous avez pris cette émission en cours, eh bien sachez qu'elle sera rediffusée dimanche à 11h. Vous pouvez aussi l'écouter, bien sûr, sur notre site internet pendant un mois, rphfm.org. La musique à nouveau jusqu'à 11h. 11h, ce sera l'émission Anachronique sur RPH.
Everybody, get on the floor.